RCF.
Je pense, donc j'agis. En direct de votre jardin, Melchior Gormand.
Et c'est parti jusqu'à 11h, je pense, donc j'agis. Se met au vert à travers le jardinage, vous le savez, et on le répète, on agit pour la terre, pour la planète. Chaque vendredi, nos jardiniers engagés pour un jardinage écologique nous rejoignent pour vous écouter. Si vous avez une question sur vos jardins, jardins potagers, pelouses, plantes d'intérieur, on ouvre le standard pour vous écouter. Et c'est Emmanuel Fougère qui va répondre à toutes vos questions ce matin. Vous avez la parole dès maintenant au 04 72 38 20 23. Je répète le numéro, c'est Mélissa qui est au standard 04 72 38 20 23. Deuxième moyen, c'est en allant dans notre groupe Facebook. Je pense, donc j'agis. Dans ce groupe, vous pouvez même poster des photos. Ce sera peut-être plus simple aussi pour analyser certains cas dans vos jardins. Et le troisième moyen, c'est de nous envoyer un mail avec photo également à l'adresse direct@rcf.fr. Je pense, donc j'agis, toujours avec nos chroniqueurs qui chaque jour viennent prendre la parole pour nous parler de moyens d'agir et bien sûr d'initiatives positives. C'est ce que fera Nathanaël Mion du think tank Vers le Haut. Il nous parlera des jeunes, de politique et de participation. Ce sera à 10h20. Bonjour Emmanuel Fougère.
Bonjour Melchior.
Comment allez-vous?
Très très bien.
Vous êtes en direct de nos studios à Bordeaux. Je rappelle que vous êtes vendeuse en jardinerie. Alors, la remarque d'Étienne Pépin était pertinente tout à l'heure
Oui, il y a des choses à faire.
Oui, il y a des choses à faire.
Il y a des choses à faire au jardin. Là, il faut s'occuper de ses outils, par exemple.
Oui.
Donc, on va remiser ses outils pour l'hiver. Il y a quelques trucs et astuces, notamment passer de l'huile de lin sur les manches en bois. Ça évite qu'il ne sèche et qu'il risque de casser. Et puis, les fourches, les pelles et tout ça. On fait comme mon grand-père, on prend un grand bac, on met du sable et puis de l'huile de vidange et on les plante dedans. Comme ça, ils ne rouilleront pas, ils seront tout beaux, tout propres.
Ah voilà, ça c'est une très bonne idée, ça fera plaisir à Étienne Pépin. Notre fil rouge du jour, Emmanuel, vous l'avez choisi, ce sont les agrumes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les agrumes alors qu'on est le 3 décembre ?
Justement, les agrumes, ils font des fruits en hiver, donc il faut bien s'en occuper. Et là, on va les protéger du froid. Dans certaines régions, il faut carrément les mettre en orangerie, donc dans une serre froide. Les agrumes, ils aiment bien avoir autour de 10 degrés en hiver. Donc, il ne faut pas que ça descende en dessous de zéro, mais à 10 degrés, ils sont bien. Donc, on ne les met surtout pas dans un appartement à côté du chauffage. Sinon, ils vont perdre toutes leurs feuilles et ce sera beaucoup moins joli et beaucoup moins efficace pour faire des fruits.
Donc, même l'hiver, c'est totalement possible de cultiver ces agrumes.
Ça dépend où.
Voilà, quand même.
Voilà,
je fais bien de poser la question.
À Albertville ou à Annecy, ça va être difficile de les laisser dehors.
Et donc, ça veut dire que là aussi, il faut analyser sa température. Ah oui, les emballer. Et comment on fait pour
les emballer,
les agrumes?
Alors, on va les surélever. Il ne faut pas qu'ils soient directement en contact avec le sol, sinon le froid va remonter par le pot. Donc, on met un petit isolant entre le pot et le sol. Plusieurs tours de papier bulle. En fait, plus il fait froid, plus on en met. Pour bien protéger les racines, on relève un peu le col pour pas que le courant d'air arrive au niveau de la terre. Et puis, le feuillage, il va falloir le protéger, surtout pas avec du papier bulle, mais avec du voile d'hivernage, parce qu'il faut que ça respire. Donc, on va planter des tuteurs dans le pot, 4, ça suffit, pour faire comme une petite tente au-dessus de la plante. Parce que si le voile d'hivernage touche les feuilles et qu'il y a de l'humidité, s'il gèle, la feuille qui touche le voile d'hivernage va geler aussi. Donc, on lui fait une petite cabane pour l'hiver. Et dès qu'il y a une belle journée, surtout, on le déballe pour qu'il prenne l'air, pour qu'il prenne la lumière. Et on vérifie que les cochenilles n'en profitent pas pour s'installer dans un endroit si douillet. Parce que là, ça peut être problématique si les cochenilles s'installent.
Bon. Et dans quelle région, alors, d'après vous, Emmanuel, on peut cultiver aisément des agrumes? Et dans quelle région, là, il faut faire plus attention?
Alors bien sûr, à Menton, les citrons, on les plante en pleine terre.
Oui.
Donc tout le golfe du Lion, on peut avoir des agrumes à l'année dehors, voire même plantés en pleine terre dans le jardin. Ailleurs, il vaut mieux les conserver en pot et les protéger en fonction du climat. C'est sûr qu'on ne va pas les emballer de la même manière à Bordeaux et à Reims. En Alsace, on fait pousser des quetsches et les citrons, on les fait pousser à Menton. Donc si on veut faire autrement, il faut prendre quelques précautions parce que ce sont des petites plantes qui aiment le climat corse, mais qui vont pas aimer les hivers humides et froids de climat semi-continental. Dans ces cas-là, il faut avoir une serre. Alors, il existe des serres mobiles. On peut, c'est ce que mon papa fait dans son jardin en Charente. Il a une serre mobile qu'il ne met en place autour de ses agrumes que lorsque le froid arrive.
Voilà pour ces agrumes, c'est notre fil rouge du jour. Alors si bien sûr vous avez des questions sur vos agrumes, si vous avez des doutes, vous venez à l'antenne au 04 72 38 20 23. Marie-Thérèse est avec nous depuis la Drôme. Bonjour Marie-Thérèse.
Bonjour,
on vous écoute.
Bonjour. Alors, donc je disais à l'antenne que j'ai un petit jardin. Mmh. Et dans ce petit jardin, bon, il y a des arbustes qui vont bien. Et puis, j'ai un lilas. Moi, j'aime beaucoup le lilas. Et ce lilas me donnait une très belle fleur, parce qu'il n'est pas très grand, jusqu'à il y a un an et demi. À peu près jusqu'au printemps, jusqu'à l'été qui est passé, l'été d'avant. Et depuis, oui. Il ne me donne plus de fleurs. Alors, je voudrais savoir ce qu'il faut que je fasse.
Alors, ce qui s'est passé là, cette année, c'est que la végétation a redémarré assez tôt, vers le mois de février, et puis au mois de mars, on a eu des gelées assez sévères. Donc, il y a beaucoup de plantes qui ont été complètement déréglées par ces gelées tardives du printemps dernier. Moi, j'ai des plantes qui, au lieu de fleurir au mois d'août, ont fleuri au mois de septembre ou voire au mois d'octobre. J'en ai même qui se sont réveillées au mois de novembre. Donc, c'est vraiment tout chamboulé cette année, mais ça ira mieux l'année prochaine. Simplement, il va falloir le nourrir. Donc, là, c'est le bon moment pour dégager un peu l'herbe qui est autour, s'il y en a, et puis gratouiller la terre pour aérer et mettre du compost. Et le fait de mettre du compost maintenant, les petites bestioles du sol vont faire leur boulot et amener la nourriture jusqu'aux racines. Ensuite, le lilas, on peut le tailler aussi, mais la taille, c'est surtout pas maintenant. Là, il n'y a aucun travail de taille au jardin. Donc, la taille, c'est mieux après la floraison. Donc, le lilas, ça fleurit au printemps. Donc, après la prochaine floraison, vous pouvez tailler les parties les plus anciennes pour l'inciter à redémarrer du pied sur des pousses toutes neuves. Mais le fait qu'il n'ait pas fleuri cette année, c'est normal. Vous inquiétez pas, il ira mieux l'année prochaine.
D'accord, oui. Quand il a fleuri, moi, je coupe la fleur. Je le laisse fleurir un bon moment sur pied, et puis je coupe la fleur pour la mettre en pot, pour pas qu'elle fane sur le pied. Est-ce que c'est bien?
C'est très très bien.
Bon, et ben voilà. Alors je vais attendre qu'il refleurisse l'année prochaine.
Voilà, puis vous pouvez couper des bouquets. Ça fait beaucoup de bien au lilas d'en faire des bouquets. Une petite astuce pour que ça tienne plus longtemps en vase, vous écrasez les tiges avec un marteau, le bout des tiges. Et comme ça tiendra plus longtemps en vase.
Ah bon, eh ben c'est une bonne idée.
Voilà Marie-Thérèse, à vous de jouer.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir appelé ce
journée.
Matin. Au 04 72 38 20 23. On continue avec Brigitte qui habite à Chinon. Bonjour Brigitte.
Bonjour Melchior.
Bonjour, c'est à vous.
Merci. Alors voilà, je voulais poser une question à Emmanuel. En
Bonjour.
Fait, pour mon potager, j'ai mis des feuilles, de la tonte, de l'engrais vert, ça dépend des endroits. Et puis j'ai encore des légumes. J'ai pas passé la motobineuse. Donc, est-ce qu'il faut passer la motobineuse quand même
non.
ou attendre le printemps pour faire les semis du printemps, quoi?
Non,
oh, vous
n'avez
pas l'air contente d'Emmanuel Fougère.
Non. Ah, j'aime pas les motobineuses. Non, en fait, là, tout ce que vous avez fait, c'est pour inciter le développement de la vie microbienne et bactérienne et les bestioles du sol, ce qui est très, très bien. Si vous passez la motobineuse, vous allez tout détruire parce que la motobineuse, elle va remuer les couches du sol, donc les bestioles du haut vont se retrouver en bas et les bestioles du bas vont se retrouver en haut, ce qui ne va pas du tout parce que elles vont pas survivre à ce traitement. Donc là, on va surtout pas remuer le sol, on va le laisser dormir pour l'hiver et au printemps éventuellement vous remuez là où vous allez planter ou pour enfouir l'engrais vert ou le compost. Mais non, pas de motobineuse.
Mais la motobineuse au printemps, oui.
Non, c'est pas nécessaire non plus.
Ah, pour l'engrais vert,
il y a des...
Non, on prend le forcepain.
Éventuellement, si vous voulez incorporer l'engrais vert au sol, oui, mais si vous avez mis des feuilles mortes ou du BRF, c'est pas la peine de passer à la motobineuse. Vous gardez votre sol dans le bon ordre, c'est beaucoup plus efficace.
D'accord, donc on se prend la... Enfin, j'ai acheté une... Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, grelinette ou je sais pas.
Grelinette,
c'est bien. Parce que la grelinette, justement, vous ne retournez pas le sol. Oui. Vous l'aérez, vous plantez, vous remuez la grelinette. Oui. Et ce qui va permettre d'aérer le sol et de faire pénétrer l'eau et la nourriture dedans. Mais avec la grelinette, vous n'inversez pas les couches du sol. Le bas reste en bas et le haut reste en haut.
Mais bon, c'est du boulot, mais enfin...
Oui, mais c'est pas la peine d'en faire trop. En fait, on s'est rendu compte récemment que moins, c'est bien aussi. Le travail du sol, c'est pas la peine d'en faire beaucoup, c'est pas la peine de se casser le dos. La grelinette, faut pas y aller comme un forcené, c'est pas une fourche bêche, faut pas essayer de retourner le sol avec. C'est juste vraiment pour aérer et pour pouvoir installer ses légumes à la saison.
Oui, d'accord. Bon, bah, je vais essayer de faire comme ça.
Oui, vous cassez pas le dos, ça sert à rien.
C'est quand même aussi éreintant.
Oui.
À peu près, je sais pas, 6 à 800 mètres carrés, je pense, de potager. Donc,
faites-en le moins possible. Faites-en le moins possible. Les bonnes couches de BRF, le bois raméal fragmenté, les feuilles mortes, les résidus de tonte. Attention avec les résidus de tonte parce que c'est vraiment étouffant. Donc, il faut quand même que l'air puisse circuler. Mais tout ça, c'est très, très bien. Ne vous esquintez pas le dos. Il y a autre chose à faire.
Et aussi, j'ai acheté de l'engrais de fond. Enfin, bio. Mm-hmm. Je ne l'ai pas mis encore dans le jardin. Est-ce que je le mets ou pas?
Oui, vous pouvez le mettre maintenant.
Sur les feuilles ou n'importe, oui.
Oui. Ou alors, vous écartez les feuilles, vous étalez votre engrais, vous réétalez les feuilles. Enfin, vous faites comme vous voulez. De toute façon, les pluies et les bestioles vont se charger de faire le travail pour vous.
Ah, bah super. Bon, bah, je vais le mettre. Je ne l'ai pas mis. D'accord. Bon, bah,
voilà, Brigitte, de Chinon.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Merci de nous avoir appelé ce matin dans Je pense donc que j'agis. Emmanuel Fougère, qu'est-ce que vous avez contre la motobineuse?
Eh ben,
j'ai vu votre tête, vous étiez choquée. Quand Brigitte a prononcé le mot, j'ai cru perdre Emmanuel Fougère.
Pas de motoculteur, pas de motobineuse. Non, parce que en fait, vous allez abîmer le sol parce que vous allez remuer un petit peu trop, abîmer les petits vers de terre, les pauvres, qui sont nos alliés au jardin. Les vers de terre, c'est beaucoup plus efficace que la motobineuse. Ça agresse beaucoup moins le sol et les vers de terre, parce qu'il y en a plein de sortes. On fera un jour un numéro sur les vers de terre,
si vous voulez. Ça peut être drôle.
Mais il y a des vers de terre qui vont en profondeur, il y en a qui restent en surface, et c'est eux qui vont amener la nourriture organique jusqu'aux racines des plantes et les minéraux jusqu'à la surface. C'est eux qui vont permettre aussi, en creusant des galeries, que l'eau s'infiltre correctement dans le sol. Un sol trop travaillé, il va... Si on fait remonter toutes les toutes petites alluvions, en fait, ça va boucher. Donc, l'eau va moins bien s'infiltrer. Et c'est mieux un sol aéré qu'un sol tassé. Donc, pas trop travailler le sol, c'est bien. Utiliser la nature pour qu'elle travaille pour nous, c'est mieux que d'essayer de la contrarier. On a toujours de meilleurs résultats.
Voilà pour ce coup de furie sur la motobineuse. Mais ce sera intéressant d'en reparler, Emmanuel Fougère, avec grand plaisir. On va accueillir tout de suite une autre Brigitte, c'est de Montpellier. Bonjour Brigitte.
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est pas de motoculteur. Hein.
Non,
c'est
bon. Très bien.
Chouette.
Vous venez donc en paix, il n'y a pas de problème.
Donc moi j'habite Montpellier. J'ai planté des noyaux d'abricots et de pêche il y a 15 ans. Et donc j'ai un grand abricotier et un moyen pêcher. L'abricotier donne un an sur deux, entre 150, une bonne année, et deux abricots. Donc est-ce que c'est normal?
Souvent les abricotiers font ça.
Bon. Et j'aurais voulu savoir quand je dois les tailler, s'il vous plaît, et comment?
Alors, toute cette famille-là, les abricotiers, les cerisiers, sont des arbres qui n'aiment pas tellement être taillés. Donc, il faut vraiment être précautionneux sur la taille. Bon, le pire, c'est le cerisier. Là, il n'aime pas du tout. L'abricotier, vous allez pouvoir le tailler pour dégager les branches mortes, aérer éventuellement la ramure si besoin. Moi, je vous conseille fortement d'acheter un livre. Je suis une grande fan des éditions Ulmer, la taille des arbres fruitiers et des arbustes, parce que un livre sous les yeux, ça vous montre bien où il faut tailler, comment il faut tailler, quel type de taille vous allez faire, parce que il y a autant de tailles différentes que d'arbres différents. Donc on va y aller précautionneusement avec des bons outils bien nettoyés. Là, c'est vraiment le nerf de la guerre. Quand on utilise un sécateur, on le désinfecte. C'est très très important, surtout pour ces arbres fragiles qui n'aiment pas trop la taille. Sinon, vous risquez de trimballer des maladies d'une plante à l'autre dans votre jardin. Donc, des outils de taille très propres et bien affûtés. Un sécateur mal affûté peut abîmer une branche et du coup empêcher une cicatrisation correcte. On va essayer de faire des plaies de taille les moins grandes possibles. Une coupure sur un arbre, c'est comme sur un être humain, c'est une plaie. Et si elle s'infecte, l'arbre peut tomber gravement malade. On va donc couper proprement. Et puis, on ne va surtout pas mettre de goudron ou de mastic qui va empêcher la plaie de respirer et qui risque aussi de favoriser l'installation de bestioles en dessous de la croûte et qui va empêcher l'arbre de cicatriser correctement. Donc, il faut faire des plaies propres, taillées au bon endroit. On laisse pas un chicot, c'est-à-dire que quand on taille une branche, on la coupe près d'un autre embranchement, mais pas trop, parce que faut pas non plus blesser la plante. Donc, c'est vraiment mieux d'avoir un bouquin sur les yeux pour voir à quel endroit il faut tailler et comment il faut tailler et surtout à quel moment. Il y a vraiment des périodes à respecter pour la taille, notamment en hiver. On ne taille plus maintenant parce qu'il fait froid et humide, donc ça cicatrise mal. Les tailles de printemps vont inciter la repousse. Donc on a un fil rouge sur les agrumes. Les agrumes, il ne faut pas les tailler n'importe comment non plus. Parce que si on taille trop souvent, on va favoriser le développement de jeunes rameaux et de feuilles. Donc l'arbre, il ne va pas faire de fruits, il va faire des feuilles. Or, nous, on veut des fruits. Donc il faut vraiment tailler au bon moment. Et puis, une taille d'installation, ce n'est pas la même chose qu'une taille de rajeunissement. Il y a plein de types de tailles. Achetez un livre.
Vous avez pris des notes, Brigitte, j'espère.
J'ai acheté le livre, hein, là, j'ai bien compris.
Ouais, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses.
Et l'argile verte sur mes morceaux taillés?
Oui, l'argile verte, c'est bien. On va éviter les goudrons, mais l'argile verte, c'est bien parce que ça va respirer et ça va empêcher les bestioles de rentrer. On fait un badigeon à l'argile verte. On peut aussi badigeonner les troncs pour empêcher les bestioles de s'installer quand on a des écorces un petit peu fissurées, par exemple. On peut badigeonner tout le tronc sur un mètre, comme on faisait à la chaux. Les badigeonnages peuvent se faire à l'argile verte, c'est une excellente idée.
D'accord, parce que le pêcher, lui, il fait la cloque.
Oui. C'est une catastrophe, ça. Alors, il y a quelques trucs contre la cloque. Vous pouvez mettre dans un petit filet des coquilles d'œufs que vous accrochez dans votre arbre. J'ai un ami qui l'a fait, chez qui ça a marché. Les arrosages au purin de prêle aussi sont efficaces. Et pour le pêcher, c'est bien de faire un traitement maintenant parce qu'il faut traiter les bourgeons. Parce que arrivé au printemps, c'est trop tard. Donc on va traiter les bourgeons maintenant, notamment avec des pulvérisations de purin de prêle qui vont empêcher la formation du champignon, parce que c'est un champignon, la cloque. Le purin de prêle, c'est efficace contre tout ce qui est champignon, en pulvérisation et en arrosage.
Voilà Brigitte.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir appelé ce matin au 04 72 38 20 23. Dans quelques minutes, nous accueillerons Dominique qui habite en Corrèze et Régine de Moulins. Vous êtes déjà nombreuses à patienter. N'hésitez pas à continuer, d'ailleurs à composer le numéro, à nous envoyer vos questions par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Également dans le groupe Facebook. Je pense donc que j'agis. Emmanuel Fougère, dans un instant. On reprend notre fil rouge sur les agrumes. En attendant, on va tout de suite accueillir notre chroniqueur.
Je pense donc j'agis se met au vert. Melchior Gormand.
Bonjour Nathanaël Mion.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Vous êtes membre du think tank Vers le haut. Ce matin, vous voulez nous parler des jeunes, de politique et de participation.
Et oui, cela ne vous aura pas échappé, dans quelques mois aura lieu l'élection présidentielle. En fait, les débats du moment prennent beaucoup de place, de la pandémie au choix des candidats, mais la jeunesse passe parfois sous les radars.
Mais est-ce que les jeunes s'intéressent vraiment à la politique? C'est vrai qu'on entend souvent que l'abstention est le principal choix des jeunes, Nathanaël.
C'est vrai, on parle beaucoup de l'abstention chez les jeunes, ou d'ailleurs plus généralement de leur manque d'intérêt pour la politique. Pourtant, quand on regarde les choses de plus près, la situation est un peu plus compliquée. Par exemple, beaucoup de jeunes croient à l'importance du vote. Pour une majorité de jeunes, le vote est même le premier moyen pour faire changer la société.
Et c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on a tendance à penser. Mais qu'est-ce qui vous permet de porter ce discours sur les jeunes ce matin ?
Alors, c'est une bonne question. Comme vous le savez, chez Vers le Haut, on est très attaché à aller à la rencontre des jeunes pour écouter ce qu'ils ont à dire. Alors, ça passe par des rencontres informelles et puis aussi des événements dédiés qu'on organise avec des jeunes. Et enfin, depuis quelques années, on a un outil très précieux qu'on appelle le baromètre jeunesse et confiance et dont on a présenté les résultats lundi dernier.
Et ce baromètre, en quoi il consiste ?
En fait, on appelle ça un baromètre, c'est un vaste sondage qui est réalisé par OpinionWay, un grand institut de sondage français, et on va interroger plus de 1000 jeunes de 16 à 25 ans, mais aussi 1000 parents et 400 chefs d'entreprise sur leur confiance dans la société, leur confiance dans le système éducatif, puis avec des questions qui se suivent d'année en année, mais aussi un focus, c'est-à-dire une série de questions qui sont focalisées sur un thème. Et cette année, le focus portait sur justement la participation des jeunes dans la société, à quelques mois du premier tour de l'élection présidentielle.
Et alors, quels enseignements peut-on tirer l'édition 2021 de ce baromètre ?
Alors, le baromètre, il a été créé en 2015 et ça nous a permis de suivre l'évolution du rapport de la jeunesse à la société à travers les alternances politiques, mais aussi les crises sanitaires, économiques, etc. Et ça permet d'observer des tendances qui changent dans le temps. Cette année, d'après les réponses qu'on a recueillies, une grande majorité de jeunes sont satisfaits de leur vie. Ils sont plus de 75% à dire que leur vie correspond à leurs attentes. C'est une hausse vraiment importante depuis un an. Donc les jeunes tiennent bon malgré deux années qui ont été compliquées avec les confinements, etc. Et puis en fait, on observe aussi chez ces jeunes une attente forte envers la politique. En 6 ans, donc depuis le début du baromètre, la confiance des jeunes envers les hommes et les femmes politiques a doublé. Et d'ailleurs, plus de 4 jeunes sur 10 pensent qu'ils peuvent facilement entrer en politique. C'est un niveau qu'on n'avait jamais vu jusqu'ici. Enfin, comme je le disais au début, le baromètre révèle l'importance que les jeunes accordent au vote.
Alors c'est plutôt rassurant, à 6 mois de l'élection présidentielle, est-ce qu'il y a d'autres éléments à retenir ?
Oui, alors en fait, il y a beaucoup d'éléments parce que on pose quand même un grand nombre de questions sur la confiance envers l'école notamment, ou l'optimisme pour l'avenir et puis l'avenir de ses enfants. Alors tous les résultats de ce baromètre sont disponibles sur notre site internet avec l'analyse qu'on a faite un peu plus précise des résultats. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller voir ces résultats, puis on peut avoir des surprises. Par exemple, sur le rapport au vote. Et c'est justement pour ça que le baromètre est important. Il nous permet de mieux entendre la jeunesse et de mieux la comprendre. Voilà, chez Vers le Haut, c'est aussi notre manière à nous de participer.
Merci beaucoup, Nathanaël Mion, pour cet éclairage que l'on peut retrouver d'ailleurs sur le site de Vers le Haut, verslehaut.org. Il est 10h23 sur RCF. On continue cette émission, je pense, donc j'agis en direct de votre jardin. Nous sommes en compagnie d'Emmanuelle Fougère, vendeuse en jardinerie. On va continuer d'accueillir nos auditrices, auditeurs qui patientent déjà depuis quelques minutes au standard. Alors, je crois que Dominique n'est plus là, mais c'est Régine qui habite à Moulins, qui nous appelle au 04 72 38 20 23. Bonjour Régine.
Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle au sujet de deux questions. La première, c'est sur un figuier qui est très beau, qui donne, c'est à la campagne, hein. Il donne quelques figues au départ, il y a quelques figues qui se forment. Après, elle tombe plus ou moins, et après, plus rien. Et j'ai une amie qui en a un aussi, mais qui est immense, et la même chose. On n'a jamais de figues. Alors, pourquoi ?
D'accord. Alors, le figuier est une plante méditerranéenne qui pousse dans le sud. Donc, s'il n'a pas le climat qui lui plaît, il va pas trop aimer. Ensuite, il aime l'eau. Et puis, il aime la nourriture. Donc, il lui faut beaucoup à boire et beaucoup à manger. Donc, il faudrait peut-être que vous nourrissiez votre figuier, c'est-à-dire lui mettre du compost. Là, en ce moment, c'est le bon moment. Et puis, ensuite, quand là, ça fait... Au lieu d'avoir une canicule tous les 10 ans, actuellement, on a des canicules tous les ans. Donc les arbres se préservent et il y a des arbres qui vont préférer abandonner la fructification fructification plutôt que de mettre leur santé en danger. Donc ça peut aussi être ça. Le climat, on va pas tous aller à la plage à cause du réchauffement climatique. C'est juste que c'est le bazar total et que les arbres ont beaucoup de mal à résister de plus en plus aux épisodes de sécheresse. Donc ils font comme ils peuvent et des fois ils abandonnent leurs fruits.
Et là, dans l'Allier, je connais beaucoup de personnes qui ont défilé et qui en ont ramassé énormément.
Et ben, peut-être que le leur est planté plus près de l'eau. J'ai vu dans des jardins des plantes, la même plante achetée au même moment, au même endroit, le même âge, plantée à 3 mètres d'intervalle. Au bout de 3 ans, il y en avait une qui avait pris 1,20 m et l'autre, elle avait pris 20 cm. Donc, d'un jardin à l'autre, on n'a pas les mêmes qualités de sol. L'eau ne se trouve pas forcément au même endroit. Et puis, c'est pas forcément non plus la même variété de figuier. On a énormément de variétés d'arbres. Il y en a qui sont fructifères, il y en a qui vont résister au froid, il y en a qui ne vont pas résister au froid. L'Allier, c'est pas la région rêvée pour les oliviers, les citrons et les figues. Donc c'est plus compliqué.
Voilà,
c'est plus compliqué de faire pousser une plante exotique dans un endroit qui n'est pas son biotope naturel.
Oui.
Et tout simplement.
Bon, alors il faut que je lui mette de l'engrais.
Oui, mais c'est pas la solution miracle. Ça suffira peut-être pas à ce qu'il.
Ah, alors attendez, on... Oui, alors, Régine, je vous entends toujours. On a une coupure avec Emmanuel Fougère en direct de son studio à Bordeaux. Emmanuel Fougère, qu'on va tenter de retrouver. C'est vous bon. Êtes là, Emmanuel ?
Oui, ça y est, je suis
alors,
là.
Alors, j'étais perdu.
Oui. Je voudrais vous poser une autre question.
Alors, allez-y, Régine,
j'écoute.
Rapidement, s'il vous plaît.
Oui, le matin, je bois de la tisane d'ortie. Les orties que je ramasse, que je fais sécher, que je broie. Et voilà, je bois de la tisane d'ortie. Donc, dans ma casserole, il reste des feuilles, quoi, d'ortie.
Oui.
Est-ce que je peux les mettre sur mes plantes ?
Tout à fait, oui.
Oui, ça va pas leur faire de mal.
Non, 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 non. Les orties, c'est très bien pour les plantes.
C'est bien pour les plantes.
Oui.
Bon.
Eh ben voilà, Régine, c'est parfait.
Merci.
Merci à vous d'être venu dans cette émission ce matin sur RCF. On va continuer. Alors justement, vous parliez de l'Allier il y a quelques instants. On a Thérèse qui nous appelle depuis l'Allier. Bonjour Thérèse.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
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 Bonjour, c'est à vous.
Je peux poser ma question ?
Mais bien sûr, vous êtes en direct.
Écoute.
Et il y a Emmanuel qui attend votre question.
Ça fait 2 ans, on a planté des caselles.
Des quoi ?
Oui.
Des caselles. Ça mélange, c'est des groseilliers et ça mélange de cassis et de groseille.
Ah oui.
Voilà, c'est un hybride.
Des caselles.
Oui.
Je ne connaissais pas, mais j'étais une fois chez des gens et j'avais mangé du clafoutis avec ce fruit. Et j'en ai planté 10, ça fait 2 ans.
Oui.
Et on les taille, je ne sais pas, on les taille une fois au printemps, une fois à l'automne.
Arrêtez.
Et il n'y a jamais de fruits.
Oui, bah arrêtez de les tailler, vous aurez des fruits. Et ensuite, ça dépend aussi de leur âge. En fait, fabriquer des fruits, c'est la
reproduction.
Oui, mais en fait, ça dépend à quel âge ils avaient quand vous les avez plantés. Les bébés plantes, ça fait pas des fruits. C'est les plantes adultes qui font des fruits. C'est donc peut-être qu'ils sont un petit peu jeunes. Et puis, arrêtez de les tailler. C'est pas nécessaire de les tailler. Arrêtez de les tailler.
Blanches, hein.
Oui.
Ça fait des grandes branches quand même au plafond.
Oui. Voilà, parce que plus vous les taillez, plus ils vont mettre leur énergie dans la fabrication des branches et des feuilles. Donc arrêtez de les tailler, ça leur donnera l'occasion de faire des fleurs et des fruits. Et
peut-être qu'il n'y a pas assez longtemps qu'ils sont plantés.
Aussi. Et ça peut être les deux. Donc arrêtez de les tailler, regardez-les pousser et ils vous font des fruits.
Et qu'est-ce qu'on met au pied ?
Un peu de compost. Là, c'est le moment. Vous mettez du compost.
Un peu d'engrais, quoi.
Voilà.
Donc, à groseiller ?
Oui, un engrais universel, ou bien le mieux, c'est le compost.
Le compost, d'accord. Merci
oui, c'est ce qui est le plus nourrissant.
Voilà, Thérèse, merci beaucoup.
Au revoir.
pour cette question intéressante en direct de l'Allier. Vous continuez de nous joindre. On vous attend à l'antenne ce matin au 04 72 38 20 23. C'est Mélissa au standard. 04 72 38 20 23. Vous laissez vos questions par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Également dans notre groupe Facebook. Je pense donc j'agis. On marque une petite pause. On se retrouve juste après. À tout de suite. 10h30 sur RCF, on va écouter tout de suite une chanson de John Mayer. Ça vous laissera le temps de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour nous poser toutes vos questions autour du jardinage. On vous attend nombreuses et nombreux à l'antenne. New Light, c'était une chanson de John Mayer sur RCF.
Je pense donc j'agis se met au vert, Melchior Gormand.
Et toujours avec Emmanuel Fougère en direct de Bordeaux. Tout va bien Emmanuel? Ah, Emmanuel, on ne vous entend pas. Ah si, ça y est, décidément.
Ça y est, j'ai réapparu.
Des problèmes de liaison aujourd'hui. Alors, on continue de parler de nos petits agrumes. Dans un instant, je le précise, on accueillera Paulette et Jean-Benoît qui patientent au standard. Par rapport aux agrumes, vous dites les agrumes, qu'est-ce que ça comprend? Parce qu'il y a beaucoup de variétés d'agrumes, non, Emmanuel?
Oui, toute la famille. Alors, en latin, ils commencent tous par citrus. Alors, citrus sinensis, par exemple, citron de Chine, on pourrait traduire. En fait, c'est l'orange. Parce que tous les agrumes viennent de contrées exotiques. Ça pousse pas naturellement dans les Alpes. Donc, ça vient de Chine, ça vient d'Australie, par exemple. Le citron caviar vient d'Australie. Et puis, après, il y a des agrumes qui ont été hybridés. Notamment le père Clément, qui avait un verger en Algérie, avait des orangers, avait des mandariniers. Les mandarines, c'est délicieux, mais c'est plein de pépins. Et un jour, en faisant le tour de son verger, il s'est aperçu qu'il y avait un nouvel arbre dans son verger qu'il n'avait pas planté. Et c'était une hybridation naturelle entre l'oranger et le mandarinier. Et comme c'était le jardin du père Clément, on l'a appelé la clémentine.
Tout simplement.
Tout simplement.
Déjà, on jardine avec vous. En plus, on se prend un cours d'histoire. Je trouve ça quand même pas mal. C'est très complet. Paulette, bonjour.
Bonjour. Merci d'être là.
Mais merci à vous, Paulette. Surtout, de nous avoir appelé ce matin depuis l'Ain.
Tous les jours, j'écoute la radio. Alors, donc, je vous connais.
Bon, merci. Très bien. Allez, c'est à vous.
Bon, alors moi, là, c'est Paulette Rousset, donc de Maximieux, département de l'Ain.
Enchanté.
J'ai lu un jour dans Rustica que le marc de café était très bon, surtout au moment où je l'ai lu, il y a peut-être un mois ou deux, de mettre du marc de café sur les pieds de fraisiers, ça leur faisait que du bien. Et en effet, je l'ai fait, et je me demandais s'il fallait continuer.
Oui, le marc de café, c'est bien, mais point trop d'en faux. J'ai testé une fois au pied du rosier pour chasser les fourmis. Ben, la clématite qui était à côté, elle a pas aimé du tout. Donc sur les fraisiers, c'est très bien. Sur les rosiers, c'est très bien. C'est très bien aussi dans le compost parce que ça va avoir des éléments intéressants. Et en même temps, c'est un peu acide quand il est tout frais. Donc c'est mieux quand c'est un petit peu composté.
Donc qu'est-ce il faut pas non plus ce que vous venez de dire là, tout frais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je fais mon café tous les jours. Bon, alors il faut attendre qu'il s'y sèche ou pas, quoi.
Oui, et puis ça dépend aussi des cafés. Enfin, il faut pas en mettre 20 cm au pied des plantes non plus. Hein. On va y aller avec parcimonie. Si vous en avez trop, mettez pas tout au pied des fraisiers. Ça va finir par avoir l'effet inverse.
J'en ai mis au pied du figuier. Voilà, je me demandais s'il fallait continuer. Voilà, puisque du café, du marc de café, j'en ai tous les jours. Hein. Donc, je me demandais ce qu'il fallait en faire.
Oui, mais on va pas tous les jours mettre du marc de café au pied des plantes. De temps en temps, on va mettre du marc de café, mais il faut pas non plus les enterrer sous le café, elles vont pas supporter.
Vous parlez de compost. Qu'est-ce que vous appelez? Mon mari a coupé l'herbe, c'est de l'herbe, et puis des feuilles, des herbes, tout ça. C'est ça le compost?
C'est ça le compost. Les épluchures de légumes, les coquilles d'œufs, les cheveux, la poussière, tout ça, on en fait un tas, on met du marc de café et puis on met des vers d'appât pour la pêche. On les met sur le tas et ils vont faire le boulot pour vous faire un compost. Donc le compost, c'est ce qui va nourrir votre jardin.
Ça arrive tout seul quand même.
Vous mettez...
quand ils sont,
hein. Pardon?
Quand c'est sur un terrain, les vers, ils sont bien là, non?
Oui, mais c'est... Oui, alors, les vers de terre et les vers à fumier, c'est pas les mêmes. Les vers de fumier, c'est eux qui vont dégrader la matière organique et le transformer en compost. Les vers de terre, c'est eux qui vont emmener la matière organique à la surface du sol pour l'emmener dans le sol, au pied des racines. Mais oui, en principe, devrait y avoir des vers dans le jardin.
Oui, voilà. Eh ben c'est ça.
Voilà, Paulette.
Eh ben, je vous remercie.
Et Paulette,
je vous en prie.
Comme vous faites beaucoup de café, apparemment, on viendra prendre le café chez vous.
Exactement, venez donc.
Allez.
Je vous entends.
Merci de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Paulette qui était sans filtre. Jean-Benoît est avec nous depuis la Normandie. Bonjour Jean-Benoît.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, moi j'ai un problème avec des actinidias, des kiwis.
Oui.
Si vous voulez, deux pieds de kiwis qui sont séparés d'un mètre cinquante, deux mètres on va dire entre deux, il y a deux tuteurs. Il y a un bassin au pied des kiwis, d'ailleurs un petit bassin avec des poissons. Et puis, j'ai un arbre, un frêne pleureur à côté, à gauche, et à droite, j'ai une serre. Bon.
D'accord. Si à quelle distance le frêne?
Le frêne, il est à 1,50 m, 2 mètres. Donc, tout ça est un peu serré, et je voulais qu'il y ait des kiwis, lianes dans le frêne pleureur, vous voyez, c'est des lianes. Et voilà, ça servait de tuteur, et puis ça ne donne rien du tout. Depuis 6 ans,
non.
Ça ne donne rien.
Alors, c'est à côté. Parce que vous avez... pas tant de place que ça. Il y a déjà le bassin, donc les racines peuvent pas se développer là puisqu'il y a un trou avec de l'eau dedans. Le frêne a un système racinaire puissant et il boit beaucoup. Hein, le frêne est un arbre qui aime l'eau. Donc, il ne va absolument plus rien rester pour vos pauvres petits kiwis, qui sont des plantes très 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 volubiles. Le kiwi, c'est comme la vigne, ça peut faire des lianes de 10 mètres. Donc, c'est peut-être pas une super idée de le faire grimper dans le frêne, parce que si ça marche, vous verrez plus votre frêne tellement le kiwi l'envahira. Faire grimper pour faire joli, il vaut mieux le faire avec des annuels comme les hippomées par exemple. Ça marche très très bien. Ça pousse facilement, ça supporte la sécheresse. Donc semer des hippomées pour faire joli dans le frêne, mais les kiwis vont avoir besoin de beaucoup plus de place et de beaucoup plus de nourriture.
D'accord.
Vous pouvez éventuellement, vous avez pris un mâle et une femelle ?
Oui.
Donc oui, ça va marcher. Et puis ensuite, s'ils sont très jeunes, comme je disais tout à l'heure, il faut attendre qu'ils soient adultes pour pouvoir porter des fruits. Et le kiwi se taille très sévèrement, comme la vigne. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à tailler si vous voulez avoir des fruits. Sinon, ils vont passer leur temps à faire des lianes et des feuilles.
D'accord. Donc tailler à quel moment ?
Je vais ressortir ma rengaine, acheter un livre. Faut tailler au printemps et puis garder une charpentière et puis ensuite des rameaux secondaires, et c'est sur les branches secondaires que vous aurez des fruits.
Mais
on va tailler à 3 ou 5 bourgeons. Pardon ?
Il faudrait presque que je les déplace, non ?
Oui, ça serait mieux.
D'accord.
Bon. Mettez-le à un endroit où ils auront plus de place, plus de nourriture et un support très solide, parce qu'une fois qu'ils sont partis, on ne les arrête plus.
C'est ça. Bon. Eh bien, écoutez,
voilà Jean-Benoît. Merci de nous avoir appelé ce matin au 04 72 38 20 23. C'est le numéro que vous pouvez composer ce matin pour venir à l'antenne poser toutes vos questions à Emmanuel Fougère qui vous écoute ce matin avec joie, avec attention. On la voit concentrée. Si vous avez une question sur vos jardins potagers, pelouses, plantes d'intérieur et puis bien sûr les agrumes, on vous attend. Je répète le numéro 04 72 38 20 23. Le kiwi, c'est un agrume, Emmanuel, ou pas?
Absolument
du tout?
Absolument pas. Les agrumes, c'est toute la famille des citrons. Le kiwi, il vient des Antipodes, hein, il vient de Nouvelle-Zélande. Il y a aussi des kiwis de Sibérie. Il y a plein de kiwis très rigolos. Il y a aussi les kiwai, qui sont plus petits que les kiwis et moins poilus. Donc, c'est assez sympa. Vous avez des kiwis jaunes, des kiwis rouges.
Ils sont très bons, les kiwis jaunes. Très, très bons.
Et les kiwis rouges, c'est les meilleurs que j'ai jamais mangés.
Kiwis
rouges? Ils sont rouges au milieu. Oui.
Ah, j'ai jamais vu ça.
Délicieux. C'est délicieux. J'adore ça. Pourtant, les kiwis verts, je suis pas fan, mais alors les rouges.
Je vous tiendrai au courant de l'avancée de mes tests en alimentation. Une question justement par rapport à un citronnier. C'est un agrume. J'ai fait pousser des plants de citronnier à partir de pépins de citron bio. C'est Tatiana qui habite à Lausanne qui nous pose cette question. J'ai obtenu deux plants de 15 à 20 cm. Que dois-je faire à présent pour favoriser leur pousse ?
Les rempoter, alors bon, là c'est pas le moment, on va les laisser tranquilles. Au mois de mars, on va les mettre dans des pots un tout petit peu plus grands. Alors, les agrumes, on va avoir des plantes qui vont pousser naturellement, donc ce qu'on fait avec les pépins. Mmh. Et puis il y a aussi des agrumes greffés, c'est-à-dire qu'on va choisir un système racinaire d'un agrume très costaud, comme le poncirus, par exemple, qui est le plus résistant au froid. Et dessus, on va greffer une bouture d'un arbre qu'on aime bien, qui fait des très bons fruits, et on va le greffer sur le porte-greffe. Et du coup, c'est pour ça que quand on achète un agrume, il y a un bourrelet en haut du tronc, parce que c'est le point de greffe. Donc, là, on va avoir vraiment des fruits sélectionnés. Quand on sème un pépin, ça va prendre beaucoup plus de temps pour avoir des fruits, parce qu'il va falloir attendre la maturité sexuelle du bébé arbre. Et là, il va falloir attendre de nombreuses années avant de voir un citron. Et puis, il faut plusieurs. Faut pas être pressé pour avoir des citrons.
Et ben voilà pour cette question de Tatiana. Quelle douce. C'est incroyable de faire des blagues
content,
aussi pourries. Alors, je continue d'accueillir toutes les personnes qui patientent au standard. On a Philippe qui habite à Lille. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Voilà, j'ai en région lilloise, il fait pas très chaud, j'ai en pleine terre une agapanthe depuis plusieurs années qui a déjà bien fleuri, mais cet été elle a pas beaucoup fleuri. Alors, j'ai deux petites explications à ça. C'est que je pense qu'il y a eu des agressions des racines par les campagnols qui sont passés par là. Et puis, l'hiver dernier, j'avais mis un voile d'hivernage, mais les feuilles avaient jauni et pourri. Et donc, je pense que c'est peut-être une explication. Alors, j'aimerais savoir si pour cet hiver, le voile d'hivernage, est-ce que je dois le mettre, est-ce que je dois rabattre le feuillage et pour mettre le voile d'hivernage?
Alors déjà, la première question, c'est votre sol, parce que les agapanthes aiment beaucoup le sable. Donc si y a un petit peu d'humidité à l'endroit où vous les avez plantés, c'est peut-être juste ça qui leur convient pas en hiver et qui a fait pourrir le cœur. Mais c'est pas très très grave, puisqu'elle est repartie au printemps. Donc c'est peut-être juste, elle s'est débarrassée de ses feuilles parce qu'il y a eu une gelée, donc ça les a fait cuire. Mais ça, c'est pas très très grave. Il faut que le sol soit bien drainé pour les agapanthes, même si on plante au nord de la Loire, ça vit très bien les agapanthes du moment qu'elles n'ont pas les pieds dans l'eau. Et puis bah, les campagnols, là effectivement c'est un autre problème. Donc ce sont des plantes de sol pauvre, donc on ne va pas leur donner à manger. Et puis pour le paillage, vous pouvez mettre de la paille, c'est-à-dire vous faites, ou des feuilles mortes, vous faites un gros tas de feuilles mortes ou de paille autour de votre, enfin sur le pied de votre agapanthe pour pas qu'elle attrape froid. L'inconvénient du voile d'hivernage, c'est que ça ne respire pas, donc si ça commence à pourrir, c'est pas top. Alors qu'avec la paille et la feuille, ça va être un petit peu humide, mais un peu moins que sous le voile d'hivernage.
Et les feuilles, je les laisse, elles sont bien vertes actuellement, j'y touche pas.
Laissez-les. Non, non. Et puis si elles gèlent, tant pis, c'est pas grave, vous les couperez quand elles seront moches.
Ah d'accord, ok. Bon, j'ai une autre petite question si je peux me permettre.
Allez-y rapidement, oui. Philippe.
J'ai un abélia qui a fleuri tardivement cette année, et là je l'ai regardé encore ce matin, je ne l'ai pas coupé parce que j'ai coupé d'autres arbustes, mais celui-là je voulais le laisser parce qu'il était encore
non,
bien
c'est pas
fleuri.
Nécessaire.
Et est-ce qu'il est tard pour le tailler?
Oui, on ne taille plus maintenant. Bon. On ne taille plus, il fait froid et humide, on les laisse tranquilles. Vous taillerez éventuellement si besoin au printemps, mais l'abélia, vous n'êtes pas obligé de le tailler tous les ans. De temps en temps, il fait une grande pousse qui dépasse, on la coupe si elle nous gêne, mais sinon on le laisse tranquille, il va pousser, il va faire ses fleurs.
Faut pas trop le raccourcir.
C'est pas nécessaire,
d'accord.
Non.
D'accord. Ok.
Merci Philippe.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt. À bientôt dans cette émission, je pense. Donc, j'agis. On va faire un long voyage de Lille. On va aller jusqu'à Lyon rejoindre Marie-Ange qui nous appelle au 04 72 38 20 23. Bonjour Marie-Ange.
Bonjour.
Bonjour.
Ça n'a rien à voir avec les agrumes. J'ai une haie d'hortensia. Et au sol, j'ai des pervenches qui se sont développées. Et je voulais savoir s'il fallait que je dégage les pieds des hortensias de peur que les pervenches les étouffent, ou bien s'il faut bien que je laisse ces pervenches qui empêchent les racines de geler.
Là, c'est vraiment un choix esthétique de votre part. Les pervenches, moi je trouve ça très, très bien parce que c'est un feuillage persistant, donc ça permet quand même d'avoir de la verdure quand il n'y a plus les feuilles sur les hortensias. Vous pouvez les tailler un petit peu si vous voulez, parce que
les
pervenches, ça a tendance à être un peu envahissant. Donc vous pouvez les rabattre après la floraison, là en fin de printemps. Vous leur coupez les cheveux bien courts et elles vont repartir. Mais ça, vous le faites après la floraison du début du printemps. Et là, comme ça, vous aurez un joli tapis vert au pied de vos hortensias, ce qui ne va pas du tout déranger les hortensias. Le seul souci qu'il pourrait y avoir, c'est la concurrence pour l'eau. Mais si vous arrosez correctement en été, il n'y a aucune raison que ça dérange les hortensias. Au contraire, ça évite de faire du désherbage.
Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie.
Eh bien, bonne journée.
Merci Marie-Ange. Merci Marie-Ange pour votre question à Emmanuel Fougère ce matin. On continue, Emmanuel ?
Allez, zou.
Zou.
On continue.
On part à Vichy rejoindre Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Déjà, Madame Fougère, un nom bien prédestiné pour son émission.
Merci.
Sur
oui.
Le jardinage.
C'est vrai.
Bon, voilà, je voulais vous demander, est-ce qu'on peut étaler la cendre du poêle à bois sur le potager, au pied des fruitiers, et ainsi de suite. La cendre.
Oui, on peut, mais c'est comme le fumier. pas tout de suite parce que la cendre est encore corrosive quand elle sort de la cheminée, donc il faut la faire mûrir un petit peu. On prend de la vieille cendre. On peut avoir un seau où on va conserver de la cendre et puis utiliser cette cendre-là, mais pas la cendre qui sort juste de la cheminée parce que ça va être trop corrosif pour les plantes. Mais oui, c'est très bien, une poignée de cendre de temps en temps, ça peut être très intéressant au jardin.
Donc j'en ai de plein à seau, donc j'attends un petit peu avant de l'étaler comme ça.
Voilà. Oui. Ben vous bord. La gardez pour le printemps par exemple.
Pour le printemps. Eh ben c'est très bien. Je vous remercie beaucoup pour
votre question. Merci à vous Elisabeth d'être venue ce matin au 04 72 38 20 23.
Je pense donc j'agis se met au vert. Melchior Gormand.
Avec Emmanuelle Fougère, vendeuse en jardinerie, en direct de nos studios qui se trouvent à Bordeaux. Notre fil rouge, c'est les agrumes. Si vous avez des questions d'ici 11h à propos de vos agrumes, n'hésitez pas à venir à l'antenne au 04 72 38 20 23. Nous laissez vos messages également par mail à l'adresse direct@rcf.fr et dans notre groupe Facebook. Je pense donc j'agis. Alors là, c'est pas une question sur les agrumes, c'est plutôt sur les chenilles. C'est Marthe qui est avec nous de Villeurbanne. Bonjour Marthe.
Bonjour monsieur, excusez-moi de vous embêter.
Ah non, vous
m'embêtez pas. J'ai des fleurs sur mon balcon, mais j'ai remarqué que toutes les feuilles des rosiers sont bouffées par des chenilles. Et les chenilles, je les vois jamais à l'œil nu. Qu'est-ce que je peux faire, s'il vous plaît?
Alors les chenilles, elles sont rusées, elles attendent que vous alliez vous coucher pour venir grignoter les feuilles. Donc là, de toute façon, c'est l'hiver, donc c'est pas bien grave puisque les feuilles vont tomber. Et puis, au printemps, il peut être intéressant de faire de la prévention. C'est-à-dire, on va pulvériser de l'ortie ou de la fougère. C'est un jardin que vous avez ou un balcon?
Un balcon.
Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est les mésanges. Les mésanges, en attirant, en mettant une mangeoire pour les mésanges à côté de la plante infestée, on va mettre par exemple des graines de tournesol décortiquées, ça évite qu'elles fassent des cochonneries partout sur un balcon ou dans un jardin. Et le fait de les attirer pour manger les graines de tournesol, elles vont se rendre compte qu'il y a à manger dans le rosier et elles vont vous débarrasser des petites bestioles. Donc la mangeoire à mésanges, c'est une solution. Et puis sinon, vous avez des produits pour vous débarrasser des chenilles et ça, il faudra le pulvériser.
Donc,
mais ça, c'est au mois de mars-avril.
D'accord. Faut que je me renseigne dans les magasins pour acheter un produit pour pulvériser sur les plantes.
Oui, alors il y a le bacille de Thuringe, T-H-U-R-I-N-G-E. Le bacille de Thuringe, c'est une micro-bestiole qui va parasiter le système digestif des chenilles et les empêcher de se développer, leur couper l'appétit. Donc le bacille de Thuringe, c'est ce qui va être efficace contre les chenilles une fois qu'elles seront là au printemps.
Mais elles viennent d'où les chenilles, Emmanuel Fougère? Parce que là, Marthe est sur un balcon. Ah, des papillons.
Ouais. Eh oui, les papillons, ça vole. Donc, ça va sur les terrasses, ça va sur les balcons, ça pond sous les feuilles. Et quand les œufs éclosent, ça fait des petites chenilles qui grignotent les feuilles.
D'accord. Ben, merci pour le conseil.
Ben, merci à vous, Marthe.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée, Marthe.
Bonne journée à vous aussi. Et merci de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Une question de Suzanne. Ah, vous avez Emmanuel, allez-y.
Si on veut des papillons, il ne faut pas tuer les chenilles.
Ben oui.
À force de tuer les chenilles, on n'aura plus de papillons. Voilà, c'était une petite parenthèse.
Donc, il faut utiliser la bacille de Thuringe.
Non, il ne faut pas les tuer.
Qu'est-ce qu'on
les
fait
alors? Les mésanges, c'est bien. Les mésanges, mésanges. Moi, je suis fan des mésanges. Mais sinon, moi, j'aime bien les papillons, les chenilles, je les garde.
Mais voilà, parfois, ça peut être un petit peu destructeur hein, quand même. On l'entend avec ce témoignage de Marthe.
Eh bien, on met des plantes pour les chenilles et puis d'autres pour nous. Voilà, on peut accueillir tout le monde dans un jardin, les fleurs et les chenilles.
Il y a un discernement à faire. Bon, voilà. Une question de Suzanne. Mon pommier a encore toutes ses feuilles vertes. J'habite au Havre en Normandie. S'il y a de la pluie, c'est doux, même si ça se réchauffe. Quand dois-je le tailler, ce pommier?
Jusqu'à quel... on ne taille pas maintenant. on taille pas maintenant parce que il fait froid et humide et les plaies cicatrisent mal. Donc le pommier, on va le tailler. Après, ça dépend des pommiers. Moi, j'ai un pommier en cordon, je le taille en fin d'été. Donc oui. en septembre. Mais je te fais aussi une taille au printemps parce que je le contrains énormément. Si c'est un arbre de plein vent, on va juste le tailler si nécessaire pour couper le bois mort ou les branches qui partent mal. Mais on va pas le tailler tout le temps.
Voilà pour cette question de Suzanne. Une autre de Sophia dans le groupe Facebook, je pense, donc j'agis. Alors là, je ne sais pas du tout si vous allez pouvoir répondre. Cheveux et poussière dans le compost, est-ce qu'on peut mettre aussi le crin de cheval ?
J'ai eu l'impression c'est très bien.
Alors, parce qu'elle a eu l'impression que ça ne se décomposait pas assez bien.
Alors, ça, c'est plus lent, fait.
Plus costaud,
donc,
peut-être. Ouais.
Voilà, c'est plus costaud. Sinon, il y a une solution, c'est de le couper en petits morceaux, mais c'est pas facile à couper en petits morceaux. Mais oui, les vers de fumier mangent les cheveux. Les cheveux, c'est beaucoup plus fin que le crin de cheval, donc ça se dégrade beaucoup plus vite.
C'est intéressant, ça. Je savais même pas qu'on pouvait mettre des cheveux ou du crin de cheval dans le compost.
Oui, les ongles aussi. On peut tout mettre.
C'est très précis. Pour revenir sur ces agrumes, Emmanuel, peut-être un conseil très simple pour finir cette émission pour nos auditeurs qui aimeraient en cultiver. On peut maintenant, attention à la région quand même, hein.
Oui, et il y a aussi un agrume qui peut vivre en intérieur, c'est le calamondin. Donc lui peut vivre en appartement toute l'année. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est avoir des citronniers dehors et puis au mois de novembre réaliser qu'il fait froid et les mettre à l'intérieur. Le calamondin, il va passer toute l'année à l'intérieur, donc il va s'habituer à la chaleur progressive. Il va pas avoir de gros écarts de température. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est un choc thermique, c'est-à-dire que il est dehors, il a plus 1, plus 2 degrés, et tout à coup, on le met à l'intérieur où il fait plus 20, voire plus 22. Ça, il ne supporte pas. Mais il faut pas non plus oublier d'arroser les agrumes en hiver. C'est pas parce qu'il fait froid qu'on ne boit rien. Donc, en été, c'est plus d'une fois par semaine. En hiver, ça va être à peu près une fois par mois. Sauf si c'est en serre. En serre, qui s'y fait 10-15 degrés, ben, on va arroser ces agrumes toutes les 3 semaines. S'il y a des fruits, faut les arroser régulièrement. Sinon, les fruits seront tout secs, ils n'auront pas de jus. Donc voilà, pensez à arroser vos agrumes, même en hiver.
Vous avez cité tout à l'heure, Emmanuel, les éditions Ulmer, hein, c'est ça,
oui.
Si j'ai bien noté. Est-ce que vous avez peut-être un livre à conseiller à nos auditeurs ce matin?
Chez Ulmer, il y a la taille raisonnée des arbres et des arbustes, la taille des rosiers. Enfin, ça te commence tout par la taille. Et sur Internet, sur leur site, il y a vraiment plein de livres sur la taille. Après, à chacun d'acheter celui qui le concerne. Il y a des gens qui vont tailler que des fruitiers, il y en a qui n'ont que des haies. Il y en a. Donc, il faut prendre un bouquin qui soit assez généraliste mais précis. Donc, la taille des arbres et arbustes chez Ulmer, ça marche très très bien.
Merci Emmanuel Fougère.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. On vous retrouvera très prochainement pour d'autres aventures au jardin. Je rappelle que vous êtes vendeuse en jardinerie. Merci d'avoir répondu aux nombreuses questions de nos auditeurs ce matin. Merci également à Samuel qui était à la réalisation du côté de Bordeaux. Merci à Christophe qui était avec moi, à Mélissa qui répondait à vos appels. C'est déjà la fin de cette émission, je pense. Donc j'agis. On se retrouvera bien sûr lundi en pleine forme de 9h à 11h. On parlera du synode sur la synodalité. Et puis, des pistes qui sont mises en place dans certains diocèses pour entrer dans cette démarche de synodalité. Ce sera en compagnie de Véronique Alzieux. D'ici lundi, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook « Je pense donc j'agis » où vous pouvez poster tous vos messages et nous proposer pourquoi pas des sujets d'émission. Ça reste toujours très intéressant. On est en train de faire un brainstorming pour l'année 2022. Merci à toutes et tous. Passez un bon week-end. Emmanuel, à bientôt. Et
à bientôt.
Surtout, bonne journée
bonne
avec
fête.
RCF. Merci Emmanuel.